Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour, c'est excellent ça, une chanson joviale. On commence. À nous le futur.
C'est alors qu'il faut marcher.
Alors, bonjour officiellement, mon nom est Claude Saint-Jean, je vous anime l'émission À nous le futur. Et puis, je suis bien content que j'ai été précédé par la chanson 8 milliards, danser ensemble, chanter ensemble, félicitations à l'auteur. C'est Otto, je pense. Et puis, je suis fier de cette émission. Pourquoi je dis ça? C'est parce que PSP est venu ici, je l'ai entendu parler avec quelques jeunes qui l'interviewaient. Et puis, il disait... nous devrions ne pas avoir peur de l'avenir. Mais je crois que je prouve que je le comprends, que je le fais. Avec cette émission « À nous le futur », je suis content de vous voir, de vous entendre et de m'entendre. Et puis, « À nous le futur », je précise, positif. Hein? Fait que je sais que ça va mal, mais je sais très bien que ça peut aller très bien aussi. Alors, justement, pour commencer, je voyais plonger dans le plaisir. C'est-à-dire que je vous... recommande le livre qui date de peut-être déjà une couple de décennies quand même. C'est « L'homme en devenir » de Jean Houston, une psychologue qui a suivi la trace de Maslow dans la psychologie positive. Alors, il y a un exercice à la page 128 qui s'appelle « Le plaisir tonifiant ». Ça dure 30 minutes. Elle dit « Je demandais un jour à un groupe d'amis que j'avais invité de dresser la liste des expériences vécues et des associations de pensée qui leur semblaient le plus délectable. Après quelques rires et exclamations de scepticisme, elle se mit au travail avec un enthousiasme qui, visiblement, croissait au fur et à mesure que la liste s'allongeait. Cette liste, la voici. On pourra constater qu'il s'agit d'une véritable arche de Noé du plaisir, d'une incursion dans un univers perdu et soudain retrouvé, ou si l'on préfère un festin où le corps fait bombance et l'âme s'extasie. Par exemple, m'allonger au soleil sur la plage pour écouter les vagues en plongeant les orteils dans le sable brûlant. Me glisser entre des draps séchés au soleil et fraîchement repassés. Me blottir au milieu de la nuit dans un grand fauteuil pour doloter mon enfant. Alors, il y en a une dizaine d'autres, comme manger en juillet une grappe fraîchement cueillie de raisins verts. Voir soudain le bouchon s'enfoncer et sentir qu'un gros poisson mort. Bon, voilà des plaisirs possibles. Et puis, je vous lis quelques extraits ici. Bon, voilà. Elle dit que l'émerveillement de cette joie de vivre nous vient aussi du soleil dans l'apothéose du couchant, de la luxuriance des jonquilles dans un pré, de l'étincellement d'une cascade. Nous n'en finirons plus d'émunérer tant la nature nous fournit de motifs à glorifier, moissonner, danser, chérir et partager. Je veux simplement dire par là que notre culture nous prédispose essentiellement aux longues souffrances et aux brefs plaisirs. Un renversement de ces tendances, pour exceptionnel qu'il soit, s'observe pourtant dans certaines cultures, la balinaise, par exemple, où le récit oral, le chant et la danse conservent toute leur vigueur. Ce qui caractérise pareille culture, c'est la considération portée à l'artiste, au chanteur, au conteur. L'art s'y intègre harmonieusement à la vie quotidienne de chacun. Le mobilier et le vêtement y sont le fruit d'un artisanat vivace et entouré de considérations. La confection d'un repas y représente l'occasion de se récréer dans la bonne humeur et il est de tradition d'y célébrer des fêtes auxquelles participent activement tous les membres de la communauté sans distinction d'âge. Alors, je tenais à commencer par ça, par le plaisir. Ça vient de « L'homme en devenir » de Jean Houston. Et tant qu'à y être, je vous parle d'un livre que j'ai trouvé hier à la librairie Appalaches. C'est le manuel d'histoire du futur. Je vous lis Lando. La pandémie qui a frappé l'humanité au printemps 2020 a rappelé l'insoutenabilité du fonctionnement actuel de nos sociétés. Tandis que certains annoncent leur effondrement, cet ouvrage propose au contraire d'imaginer dans quel monde nous pourrions vivre demain si nous faisions dès aujourd'hui d'autres choix. Bonjour Engel, mon chat, là. Et si la décennie 2020 était celle du changement de cap? Démocratie, travail, écologie, culture, finance, 30 chapitres thématiques proposent un état des lieux de la situation actuelle et des mesures concrètes pour construire d'autres lendemains. Partant du monde tel qu'il est, cet ouvrage est un manuel à l'usage des générations présentes pour construire un avenir meilleur. S'appuyant sur les propositions de nombreuses organisations, il est un outil de débat citoyen, d'éducation populaire et d'imagination collective pour inventer ensemble un futur souhaitable pour nos sociétés et pour la planète. Alors, futur souhaitable, j'ai déjà fait une émission qui s'appelait « Futur désiré ». C'était assez Félix. Je posais des questions genre « Quel futur désirez-vous? Qu'est-ce qui manque pour y arriver? Qu'est-ce qui devrait être fait pour y arriver? Avez-vous espoir d'y arriver? Et si vous y arrivez, qu'allez-vous être? Comment allez-vous être? Qu'allez-vous faire? Que sera l'amour, le jeu, le travail, la spiritualité pour vous? » Alors, c'est ça. J'ai interviewé beaucoup de monde là-dessus, des gens de gauche, de droite, de toutes les couches de la société, pauvres, riches et tout ça. J'ai des cassettes de ça parce que dans le temps, c'était des cassettes. Et puis, voilà, c'est intéressant. Puis, j'étais à la librairie Appalaches hier, comme je viens de vous dire, et j'ai trouvé un livre dont nous parlait un auteur, son auteur, Martin P.M. Ça s'appelle « Un sacrifice tout naturel, les ratés de la protection de la biodiversité au Québec ». Alors, c'est un très beau livre de bande dessinée. Et je vais vous en lire au hasard quelques bandes dessinées, là. Bon, le 17 février 2021, et le 7 mars plutôt, là, à l'initiative de mon petit-fils de 5 ans, nous sommes penchés au-dessus du ruisseau que longe le sentier Léo. Une superbe mousse aquatique s'y prélassait, Physidens fatamus. Elle est classée à risque très élevé de disparaître. Alors, les gens font des inventaires. C'est une étude sur une portion de terrain où un groupe de scientifiques et de bénévoles mène un inventaire intensif pendant une courte période de 24 à 48 heures. Deux objectifs, identifier les espèces et organismes vivant dans la zone étudiée et sensibiliser la population à la biodiversité qu'on côtoie. On cherche à avoir une idée de son pourcentage de recouvrement, c'est-à-dire est-ce que l'espèce est abondante ou rare. Donc, ce sont des très beaux dessins qui sont accompagnés de textes scientifiques, parce que c'est un biologiste qui a réalisé ça. Et puis, on montre les difficultés, parfois, comme un développement immobilier va prendre la place d'un terrain humide ou à Saint-Bruno, par exemple. Ou bien, on va couper des arbres, comme ça se fait des fois à Sherbrooke, là, pour faire des habitats. Alors, je vous suggère de regarder ça, c'est très intéressant. Ça s'appelle « Un sacrifice tout naturel, les ratés de la protection de la biodiversité au Québec ». Et l'auteur a signé l'autographe, là. Il dit « Bonne lecture, Claude. Interdit de polluer, sauf si je l'autorise. » Il se moque du ministère de l'Environnement qui, lui, interdit de polluer, mais autorise à des gens riches souvent de le faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, je vais vous forcer de la musique tout de suite, et puis on revient. Bonjour, ici Claude Saint-Jean pour l'émission En nous le futur. Je suis très fier parce que j'ai fait la publicité à 11h15, ce qui est demandé. Et puis, je viens d'être optimiste, alors je peux me permettre de vous faire une petite liste de projets québécois qui n'ont pas été réalisés encore. Par exemple, l'indépendance politique. Ensuite, une assemblée constituante... par laquelle les citoyens et les citoyennes écrivent leur propre constitution. Ensuite, le monorail Trans-Québec. Ça marche, là, si vous regardez ça, là. C'est le moteur roue qui a été inventé par un Québécois, là. Et puis, ça pourrait faire Montréal-Québec en 150 km/h. Et puis, le rapport Pronovo sur la réforme de l'agriculture qui a été tabletté. Une économie bleue. C'est pas un Québécois qui a inventé ça, c'est M. Pauly. Et c'est comme mieux que l'économie verte, c'est moins cher. Et puis l'éolien, nous avons une très grande richesse en éolien, on s'en sert pas. Puis les seuls qui s'en servent actuellement, ce sont les industries qui sont en train d'accaparer les terrains où il y a beaucoup de vent. Donc c'est pour nous, c'est pour eux au lieu de nous, ça ne marchera pas. Alors zéro pauvreté, on n'a pas encore atteint ça. Fait qu'il y en a sûrement d'autres, là. Vous en connaissez certainement. À Sherbrooke, le plan santé environnement, ça n'a pas été encore accepté. Le plan alimentation durable, c'est en partie réalisé. Fait que je m'inspire de la réalité très récente, à commencer par hier soir à la télévision. Un journaliste disait qu'à Gaza, il y a une politique de la famine qui est faite par Israël et une politique de la punition collective. Bon, alors ça, moi, ça m'a immédiatement fait penser que ces deux politiques-là, ça vient de ce que les armées font pour se préparer à la guerre, c'est des « war games ». Ils jouent depuis très longtemps là, avec des ordinateurs à la guerre, et puis ils font des plans pour tuer le plus de monde possible, le plus rapidement possible, peu importe le coût. Alors ça, c'est peut-être le fruit de quelques « war games » qu'ils ont fait. Mais je tiens à vous dire qu'il existe aussi des « world games », le contraire. Comment planifier la paix? C'est Buckminster Fuller qui a fait ça, ce grand héros qui a travaillé à Sherbrooke ici en 1914, à l'âge de 19 ans, qui a fait le dôme géodésique et le pavillon des États-Unis, la boule ronde là, sur l'île Notre-Dame, qui est un exemple de faire plus avec moins. C'est la structure qui inclut le plus d'espace avec le moins de matériaux. Et dans quelques world games qu'il a fait, qu'on peut traduire par « jeu planétaire », il y a des livres qui sont sortis, par exemple « Food for Everyone », nourriture pour tout le monde, n'est-ce pas le contraire de la politique de la famine? Et puis « Energy for everyone », énergie pour tout le monde. Alors, Fuller voulait le succès de l'humanité, c'est-à-dire la satisfaction des besoins de tout le monde. Dans un premier temps, sans nuire à l'écologie, dans un deuxième temps, mais en même temps, là, dans la paix. Alors, Fuller, en plus d'avoir travaillé à Sherbrooke, bien, Sherbrooke, actuellement, c'est une ville qui fait partie du réseau des maires pour la paix, même si elle semble ne plus s'en souvenir. Le réseau japonais des maires pour la paix marque dans son site Internet que Sherbrooke en fait partie. Et Sherbrooke, on dirait qu'elle l'oublie. Pourtant, il y a une culture de la paix à travailler. C'est le but des maires pour la paix, un des buts, là, comme aussi le développement durable. Alors, Buckminster Fuller, il voulait remplacer la weaponry par la livingry. On va dire que c'est l'armement par des objets qui entretiennent la vie. Et puis, donc, il a écrit son livre en 1980 où il faisait un plan de 10 ans. Ce plan-là, si on l'avait réalisé, aujourd'hui, tout le monde vivrait très bien. L'écologie n'aurait pas été si détériorée et nous serions en paix. Mais on ne l'a pas fait. Fait qu'il y a moyen de se reprendre quand même. Par exemple, Mme Raworth, dont j'ai déjà parlé, dans sa théorie du donut, souhaite, comment elle appelle ça, donc, une zone juste et sûre pour l'humanité, à condition qu'on satisfasse le plafond écologique qui est constitué de 9 limites de la planète à ne pas respecter. Et 6 actuellement ne sont pas respectées. Puis le journal Climatoscope de l'Université de Sherbrooke va publier en septembre prochain un numéro sur les 9 limites de la planète. Et puis la deuxième condition pour Mme Raworth, la théorie du donut, d'arriver à une zone juste et sûre pour l'humanité, c'est la satisfaction des 12 besoins, comme habitat, égalité des sexes, nourriture, eau, démocratie, paix. Et puis, il y a Éloi Laurent. C'est sûr que ce n'est pas nouveau pour les gens qui m'ont écouté depuis le début, là, mais Éloi Laurent, un autre économiste, a écrit le livre « Et si la santé guidait le monde? L'espérance de vie vaut mieux que la croissance », dans lequel, justement, il donne des exemples de plans alimentation durable, plans santé environnement, plans air, climat, énergie et plans mobilité, par exemple, pour la santé de tout le monde. Fait que Fuller, comme je le disais, il veut weaponry au lieu de livingry, et puis il a inventé le jeu planétaire pour y arriver. Et un peu, à un moment donné, j'étais un petit peu tanné de lire seulement Fuller, puis là, je me suis aperçu que Seymour Mellman, un ingénieur industriel merveilleux, qui a aidé parfois de Lloyd Dumas, L-L-O-Y-D, D-U-M-A-S, a fait toute une littérature de recherche et de trouvailles sur la manière de faire la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Il y a un Québécois, Yves Bélanger, qui a écrit à propos de Seymour Mellman et qui a écrit au sujet de cette conversion de l'industrie militaire et des fins civiles, l'industrie québécoise, hein, parce qu'il y en a une industrie québécoise militaire. J'ai écrit au GRIM à l'UQAM pour savoir si le travail de Yves Bélanger est continué parce que M. Bélanger est décédé. Fait que j'ai hâte d'avoir la réponse. Et puis, s'il ne continue pas, nous continuons dans notre tête, puis j'espère concrètement bientôt, là. Monsieur Seymour Melman dit que l'économie militaire américaine, là, c'est plus de 51% de l'économie. Alors, c'est beaucoup. Il dit que 8 000 milliards de dollars ont été dépensés depuis quelques années là-dedans, au lieu de dans la société civile. C'est pourquoi la société civile américaine est détériorée, et la nôtre aussi, par conséquent. Et puis, par ailleurs, ça me fait penser à ce que je lis aussi d'autre part, là, les écrits de Abdenno Bidar, dont j'ai déjà parlé, ce Français qui est philosophe et qui est né catholique, mais d'une mère qui est devenue musulmane. Alors, il a vécu toute sa vie dans un paradoxe. Il avait deux cultures, la culture française chrétienne et la culture musulmane. Puis ça lui a fait beaucoup de problèmes quand il était jeune à l'école. Plus tard, ces problèmes se sont internalisés. Il se demandait comment pas virer fou avec tout ça. Et puis, c'est grâce à la philosophie et à l'écriture qu'il s'en est tiré. Il a écrit de merveilleux livres comme, par exemple, « Self-Islam », que j'ai relu tout récemment, et « Comment sortir de la religion ». C'est super intéressant. Imaginez-vous que vous pensez qu'on est sorti de la religion, mais non, on n'est pas encore sorti de la religion. Nous nous retrouvons aujourd'hui comme si nous étions des dieux. Nous avons les pouvoirs des dieux. Moi, je le sais. Je vous le transmets pourquoi, entre autres. Bien, nous avons détruit la biodiversité. Deux tiers des insectes, des mammifères et des oiseaux sont disparus, nous a dit le physicien Aurélien Barreau dans son livre « Hypothèse K ». Et j'ai appris finalement beaucoup en lisant sur le militarisme que nous avons suffisamment d'armement pour détruire 300 fois l'humanité. Peut-être que depuis la fin du mur de Berlin qui séparait les communistes des capitalistes, que c'est 295 fois, tu sais. Et puis là, j'en connais un, qui est un monsieur qui fait des poutines à satiété, là, qui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là, mais il était pas trop courant de la théorie de l'hiver nucléaire, c'est-à-dire que si tu envoies des bombes atomiques, deux semaines après, tu meurs toi-même. Fait que on va essayer de l'informer de ça, là, la théorie de l'hiver nucléaire à M. Poutine. C'est le grand scientifique Albert Jacquard, lui aussi décédé, qui faisait prendre conscience de l'hiver nucléaire. Alors, je reviens à Abdenno Bidar, qui disait que nous nous retrouvons actuellement avec des pouvoirs des dieux sans être capables de les gérer. Tu sais, nous avons des super pouvoirs créateurs, mais c'est comme si on était des bébés dieux absolument sans être capables de gérer nos pouvoirs. Alors, M. Bidar dit, il espère que Jupiter... C'est le dieu de la paix. C'est celui qu'on va choisir au lieu des titans destructeurs. Et puis, il a écrit un livre de valeurs. Quelles sont les valeurs à partager et transmettre aujourd'hui? Et je crois que c'est une manière concrète et très simple de nous faire comprendre que nous pourrions choisir des valeurs. Par exemple, être autonome, il y en a 30. Devenir créateur, agir avec prudence, persévérer, avoir du courage, être sincère, rester fidèle, faire son devoir, être citoyen, cultiver le sens du beau. Fait que, par exemple, agir avec bonté, prouver de la compassion, se lier d'amitié. Ça me fait penser à un autre livre qu'il a écrit, c'est... Attendez un petit peu, c'est pas Tendresse ordinaire, ça c'est un film québécois. C'est Les Tisserands. Les Tisserands tissent des liens avec eux, avec les autres et avec la nature. Alors, il parle de fraterniser et se lier d'amitié. Être généreux, exprimer sa gratitude. La gratitude, c'est très important pour notre propre santé. Il y a une thérapeute en santé globale, Mme Angelard, qui a écrit un livre sur la gratitude aussi. Très important. Alors, donc, ces valeurs-là, je vous encourage à les lire, à vous renseigner là-dessus. C'est « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui » de Abdenno Bidar. Quelques autres livres intéressants, c'est André Comte-Sponville, Le plaisir de penser. Je l'ai vu à la librairie tout à l'heure, là. J'ai quelques pages. En tout cas, c'est super intéressant. C'est un petit peu froid. C'est pas assez joyeux à mon goût, mais c'est quand même intéressant de dire que penser est un plaisir, hein? Félicitations, M. Comte-Sponville, Penser n'est pas triste, comme nous ont dit d'autres philosophes avant. Alors, Self-Islam, l'histoire d'un islam personnel de Abdennour Bidar, c'est vraiment intéressant. C'est sa biographie, tu sais, comment il s'est senti avec deux cultures contradictoires et puis comment il s'en est sorti. Et je vous rappelle un livre que j'ai déjà lu ici, dont j'ai déjà parlé, c'est Toxic Planète. Si je vous en parle, c'est qu'il y a un chapitre sur les perturbateurs endocriniens, ces ingrédients chimiques qui nuisent à notre santé beaucoup. Et pourquoi je suis intéressé à ça, c'est parce que, ça aussi, je vous en ai parlé récemment, c'est le livre qui est en ligne seulement, un livre tout récent, c'est le livre de la réduction de la maladie. C'est une évidence, mais ça n'a pas l'air que ce n'est pas si évident que ça pour les 30 derniers ministres de la Santé puis 30 derniers premiers et premières ministres, qu'en réduisant la maladie, on pourrait réduire les coûts, tu sais, du système de santé. Au lieu de soigner la maladie, pourquoi pas les réduire par la prévention et la promotion de la santé? Alors, il y a des signataires de ce texte-là. Par exemple, René Maréchal, un kinésiologue de l'Université de Sherbrooke, que je vais avoir le plaisir d'interviewer le 18 avril, qui fait des différences subtiles entre la sédentarité, l'activité physique et l'inactivité physique. J'ai appris, par exemple, que quelqu'un qui fait de l'activité physique 2 heures par jour pourrait être presque sédentaire s'il passe le reste de la journée assis ou assise, tu sais. C'est important, dans un autre livre là, d'un autre kinésiologue ou physiothérapeute, il disait qu'après chaque demi-heure assis, c'est très bon de se lever. Et lui, il propose des respirations abdominales, mais pourquoi pas ajouter quelques étirements, tu sais. Fait que finalement, pour tous les intellectuels du monde, il ne faut pas rester assis plus d'une demi-heure sans bouger. Et ça veut dire pour les policiers qui sont assis dans leurs autos à 8 heures par jour, ou les ambulanciers et ambulancières, ou les chauffeurs et chauffeuses d'autobus, et toutes les autres professions qui sont assis toute la journée, il faut faire vraiment attention, c'est des causes de maladies chroniques. Alors, ça va faire pour les livres aujourd'hui, les nouveaux, là. Je vous reviens ici, Claude, pour l'émission « Nous, le futur » et à tantôt. C'était Parkawan qui chantait « Oiseau ». Et puis, c'est Claude ici pour « À nous, le futur ». À vous, le futur aussi. Puis le beau futur, s'il vous plaît. Hein? Fait que Buckminster Fuller, j'ai quelques citations là, qui viennent d'une pièce de théâtre traduite en français que j'ai vue à Montréal. Là, il dit « Je veux que vous sentiez vraiment ça avec moi ». Ça, lui, il disait que, tu sais, comment ça s'appelle, la grande noirceur. Au Québec, on a connu ça, la grande noirceur, là, avec Duplessis qui vendait le minerai de fer à une scène d'automne, puis que l'Église catholique qui nous envoyait en enfer lorsqu'on faisait un petit péché véniel de rien. Là. Fait que, tu sais, on vivait dans la peur. Fait que ça, c'est la grande noirceur québécoise et mondiale. Puis Paul Fuller, il disait que si on dit « le soleil se couche », on est encore dans la grande noirceur. Parce qu'il ne se couche pas le soleil, c'est pas vrai ça. Si on disait les états solides, on est dans la grande noirceur, parce que les atomes ne se touchent pas. T'sais, c'est pas solide. Si on dit une ligne droite, on se trompe. C'est pas droite parce que les atomes ne se touchent pas non plus. Ça vibre, ça bouge, ça vibre. C'est pas droit. Alors, je vous répète ça dans ces mots à lui. Là. Je veux que vous compreniez ceci, 2 points. Les couchers de soleil n'existent pas. C'est la Terre qui pivote pour cacher le soleil. Et le soleil ne descend pas. Essayez de sentir ça avec moi. En roulant, on cache le soleil. On produit une éclipse de soleil. C'est très facile de le sentir. Si vous vous placez face au nord et que vous regardez par... Bien là, j'ai pas imprimé le reste, là. Mais c'est la Terre qui pivote pour cacher le soleil. Il dit aussi, aucun scientifique, qu'il soit physicien, géologue ou physiologiste, n'a jamais découvert quoi que ce soit qui puisse être appelé un solide. Notre univers physique est constitué d'énergie et d'événements énergétiques. La physique n'a pas découvert de solide, il n'y a pas de surface, pas de solide, ni de ligne droite. Et ensuite, il dit ce qu'il appelle une erreur fondamentale, l'homme agit à partir de l'idée erronée qu'il est un échec et qu'il doit prouver son droit à la vie, alors qu'au contraire, il a été créé par l'univers pour être une réussite extraordinaire. Ça me fait plaisir de vous transmettre cette pensée. Vous êtes une réussite extraordinaire individuellement et l'humanité aussi. Et puis, tu sais, prouvons-le. Faisons-nous des belles poutines agréables. Aujourd'hui, dans Le Devoir, il y avait un article très intéressant que je suggère de lire. C'est « Maître énergétique de chez nous ». C'est par Sylvain Fréchette dans ID. Bon, fait que finalement, tu sais, il parle d'autonomie énergétique, là, puis d'être moins dépensier, puis il critique un peu Hydro-Québec. Il dit qu'il est grand temps de faire la lumière sur toutes les possibilités entourant notre autonomie énergétique. Mettre chez nous, oui, c'est possible. Et en faisant du ménage dans une centaine de chemises en carton dans lesquelles j'avais mis des documents, il me reste peut-être une quinzaine de chemises à défricher. Je m'attendais à en jeter beaucoup, mais j'en ai pas jeté, parce qu'à ma grande surprise, même si c'est âgé comme document, la plupart sont encore très pertinents. J'en ai trouvé une citation de Jean-Marie Pelt, que je vous transmets tout de suite. Il dit « Nous avons des devoirs par rapport à la Terre et à nos enfants. La Déclaration des droits de l'homme ne parle pas de nos devoirs, mais il existe quand même. Nous avons donc le devoir de laisser aux générations futures une planète à peu près en bon état. » Et à propos du budget du Québec qui a été décidé cette semaine, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, le RNCREQ. Ici, nous avons le CRE, là, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Mais il y a un ensemble qui regroupe tous les centres conseils régionaux de l'environnement de toutes les régions du Québec. Il y a 17 régions au Québec. Alors, le titre, c'est « Grande déception pour la concertation et l'action environnementale dans toutes les régions ». C'est un communiqué de presse. Le 12 mars, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec est extrêmement déçu du manque de soutien du gouvernement à l'égard des conseils régionaux de l'environnement et leur regroupement. Alors que ce réseau est son allié pour atteindre ses objectifs et mettre en œuvre le plan pour une économie verte 2030 et le plan nature 2030, Québec annonce dans son budget 2024-2025 le statu quo quant au financement à la mission des CRE. C'est un non-sens dans le contexte actuel où les besoins de concertation s'accroissent. Alors, tu sais, je ne vous lirai pas tout ça, ces deux pages-là. C'est signé Nicolas Valenti, qui est chargé de communication au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Je vous suggère de lire le communiqué de presse. Et il me vient un souvenir, j'ai vu M. Girard, le ministre des Finances, hier à la télé et avant-hier, ainsi que M. Legault, qui disait « Ah, nous avons des déficits, c'est à cause surtout, entre autres, des feux de forêt et de la baisse du niveau d'eau dans les aires où il y a des barrages à cause de la sécheresse, ce qui a fait que nous avons moins exporté d'énergie et nous avons perdu 1,5 milliard de dollars. » Quoi? Les feux de forêt et des sécheresses? Ça existe, ça? Mais je suis surpris. Je me semble que ça n'existe pas, les changements climatiques, pour le gouvernement. Et il nous dit hier, pour justifier que les changements climatiques existent, mais pourtant, il dépense à peu près rien pour les juguler par la réduction des gaz à effet de serre et par l'adaptation au changement climatique. Alors, s'il vous plaît, cher gouvernement, changez d'idée et réglez le problème du changement climatique, mais pas seulement ça. La biodiversité aussi, s'il vous plaît. Alors, je vous donne une autre nouvelle, c'est le CRESP, le Centre de recherche en santé publique, qui annonce le 15 mars. C'est aujourd'hui, ça, c'est 15 mars? Attendez. Le 14, c'est demain. Alors, le changement climatique et la santé publique, effets insoupçonnés en santé environnementale et santé au travail, de 11h30 à 12h30, je pense que c'est un Zoom, une conférence organisée par l'ASPQ, Association Santé publique du Québec, et le CRESP, Centre de recherche en santé publique. Donc, changement climatique et santé publique, manquez pas ça demain. J'ai un article de Jean-Baptiste Fresoz, F-R-E-S-S-O-Z. La transition énergétique n'a pas commencé. C'est dans, je pense, Reporter. Au début, ça explique, ça dit que les discours sur la transition sont des leurs. Celle-ci n'a pas été amorcée, explique l'historien Jean-Baptiste Fresoz, F-R-E-2-S-O-Z. Au lieu de fantasmer sur un monde zéro carbone en 2050, il faut être une décroissance matérielle, dit-il. Un autre communiqué, c'est le 7 mars 2024 à Saint-Hyacinthe. Dotons nos municipalités d'un règlement pour une transition énergétique juste et durable au Québec. On dit que c'est devant le barrage T.D. Bouchard, portant le nom du père fondateur d'Hydro-Québec, que des citoyens et des citoyennes représentants de regroupements de plus de 12 MRC demande que les municipalités québécoises adoptent une en masse un règlement concernant la production d'énergie renouvelable pour assurer une transition énergétique juste et durable. Ça continue. Les choix orienteront l'avenir des Québécoises et Québécoises tout au long du 21e siècle. On ne peut se permettre de faire des erreurs. Nous avons besoin d'un débat sur la transition énergétique. Gérard Montpetit, Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement. Devant l'accélération des projets éoliens, des regroupements régionaux s'organisent. En effet, une rencontre des regroupements de citoyens et de citoyennes concernés et dans la problématique des éoliennes ont prévu le 24 mars pour s'organiser à l'échelon provincial. La façon de faire actuelle où des compagnies privées répondent à l'appel d'offres d'Hydro-Québec pour faire signer des contrats de projets éoliens directement avec les propriétaires pose notamment des enjeux de sécurité alimentaire, par exemple par la réduction de l'espace cultivable et la perturbation des systèmes agricoles, d'impact écosystémique et de division sociale. Depuis toujours, la filière éolienne au Québec a été et est encore développée de façon scandaleuse, non seulement de par son grave déficit démocratique, où les citoyens sont écartés des décisions, mais aussi parce qu'elle satisfait surtout les besoins de l'industrie, dit Claude Charron, qui est un riverain du projet éolien de l'Érable. Pour plus d'informations, par exemple, allez voir Richard E. Langelier, qui est un juriste. Et pour ça, consultez le CCCPEM, qui est le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement Mascoutin. Si je vais trop vite, là, tu sais, allez voir cccpem.com. Pourquoi pas, comme autre nouvelle, vous dire que ça existe la Charte internationale de la marche qui veut créer des collectivités saines, viables et efficaces où les gens choisissent de marcher. C'est bon pour la santé, c'est agréable. Et une nouvelle, soyez attentifs à l'Université de Sherbrooke le 22, 23, 24 mai. Il y aura un colloque de 3 jours, ben justement, ces 3 jours-là, de livres et imprimés autochtones au Québec à propos de l'édition, la traduction et la réception. C'est très intéressant, très important que nous, les allochtones, s'intéressions aux autochtones que nos grands-parents ont essayé d'éliminer. T'sais. Fait qu'il faudrait se reprendre, nous aimer nous-mêmes puis les aimer aux autres aussi, respecter leur culture, respecter la nôtre et faire une seule culture fraternelle. Et puis, je parle comme un monseigneur laïque, peut-être. Alors, je voudrais aussi vous parler de Roméo Bouchard dans sa page Facebook. Je ne vous en lirai pas beaucoup, là, mais il a écrit des articles intéressants récemment. Il y en a un qui s'appelle « Le libre-échange, l'héritage empoisonné de Mulroney ». Parce que, tu sais, on entend juste du bon à propos de M. Mulroney. Ben, c'est correct, il a fait du bon. Mais le libre-échange, c'était un héritage empoisonné. Qui nuit à notre agriculture, entre autres. Et puis, il a écrit un article sur la déprime des agriculteurs. Ça, c'est dans sa page Facebook. Et puis, un autre article s'appelle « Les départs ». Il parle de Navalny, de Gaza, un siège sans pitié où 2 millions d'êtres humains enfermés sont réduits à crever de faim avec leurs enfants, à courir comme des lapins. T'sais, il décrit bien, ce monsieur Bouchard-là. En Ukraine, on n'en est plus à se débattre pour du respect des zones d'influence de la Russie et de l'OTAN, comme les gauchistes attardés continuent à le ressasser. Il est dur, par contre, des fois. T'sais. C'est pour ça que des fois, les woke lui envoient des messages durs. Le départ, c'est Trump. Qu'un tel bandit psychopathe qui se fait un honneur d'admirer Netanyahou, Poutine et Kim Jong-un réussisse à se faire plébisciter par un peuple qui s'estime le plus avancé de la Terre, a de quoi nous rendre fous. Ensuite, il y a la laïcité, le caribou, c'est un animal emblématique pour lui, qui disparaît trop. T'sais. Fait que ce sont des articles de Roméo Bouchard que je vous encourage à lire. Et il y en a un autre, c'est la menace de Poutine, plus réelle que jamais. Je vous reviens. Soyez heureux. Oui, bon, à nous, le futur vous revient. J'ai quelques petites nouvelles encore. C'est du 18 au 22 mars. Tous les étudiants et étudiantes savent ça en regardant la télévision, là. La semaine des objectifs de développement durable. Mais peut-être vous, si vous n'êtes pas étudiant, vous ne le savez pas. Du 18 au 22 mars 2024 à l'université, c'est co-organisé par l'Université de Sherbrooke et le Campus durable. Il y a 5 jours de programmation. Allez voir ça. Semaine des ODD du 18 au 22 mars 2024 à l'Université de Sherbrooke. Ça veut dire objectifs de développement durable. Et j'ai trouvé un document dans un vieux document de 2007. C'est un plan pour les États-Unis pour rendre les États-Unis sans carbone et sans nucléaire. C'est ça. Fait que par Arjun Makhijani. 2007, le plan est très clair, ça n'a pas été fait. Fait que grouillez-vous, s'il vous plaît. Paye Sassus. Rends-toi carbone-free puis nucléaire-free, s'il vous plaît, parce que tu nous pollues. T'sais. Mais par contre, on se pollue nous aussi, là. Il faut nous-mêmes éviter de se polluer. Et j'ai trouvé un autre document très intéressant qui date de 2014. C'est les communs candidats aux municipales. 16 propositions pour tout de suite. Les municipalités constituent un espace privilégié d'expérimentation concrète de l'apport des communs dans la société. Je vous lis quelques communs à développer. Par exemple, la municipalité est productrice de communs, des archives et des fonds de bibliothèques et de musées, des contenus produits par la municipalité réutilisables librement pour nourrir les communs, une politique active d'ouverture de données sous licence partage à l'identique. Aussi, on dit que la municipalité est coproductrice de communs avec les citoyens. Par exemple, une information sur la ville coproduite avec les habitants, renforcer l'investissement citoyen face au changement climatique. On dit que la municipalité soutient et facilitatrice des communs, faire le choix des logiciels libres, développer l'habitat participatif et groupé, faire de la permaculture et des circuits courts pour nourrir les villes autrement. Et c'est pertinent pour nous qui avons 37 % de notre territoire agricole qu'on pourrait transformer en agroécologie ou en permaculture. Et ce qui est aussi intéressant, il existe des fermes. Allez voir ça dans Institute of Science and Society. Des fermes nouvelles qui produisent de l'énergie et de la nourriture. C'est super fameux. Faisons-en en masse. Fait que je vous rappelle le titre, c'est A-V-E-C-A-M, VECAM. Les communs, virgule, candidats aux municipales, 16 propositions pour tout de suite. Écrit en 2014. Finalement, je voudrais terminer l'émission avec la revue Rando. Ben, elle date un peu, celle-là, c'est 2020. Mais elle parlait beaucoup de sentiers pédestres à long terme, une semaine ou deux, par exemple. Fait qu'il y a, comme actualité locale dans la tribune, là, Isabelle Pion, le 2 décembre 2023, qui écrit « La navette nature s'étendra dans plusieurs régions du Québec, dont l'Estrie. » Et puis, cette revue-là, Rando, parle de 8 jours de marche pèlerine sur la voie des pèlerins de la vallée. Vous pouvez voir ça en avant, en allant la voir, la voie des pèlerins de la vallée.com. Et il existe aussi la station du Chêne Rouge, où vous pouvez louer des petits chalets dans la montagne. Ça s'appelle de même, là, puis il y a un pourcentage de réduction pour les étudiants. Et puis il y a un livre aussi qui fait rêver, c'est à propos de 800 chemins mondiaux de randonnées qui peuvent prendre 2 semaines. Exemple, allez voir le chemin vers le sacré.com. Et puis, dernière chose, c'est le réseau des femmes en environnement qui ont déjà fait une formation sur le sabotage hormonal, par exemple, à cause des perturbateurs endocriniens. Ça s'est fait dans le passé, pourquoi pas, ça pourrait se refaire. Là. Allez voir le réseau des femmes en environnement, sabotage hormonal. Pourquoi je vous parle des perturbateurs endocriniens, c'est que je vais avoir le plaisir d'interviewer très bientôt Isabelle Plante, qui a signé aussi le document de l'ASPQ, le livre de la réduction des maladies, qui est une spécialiste sur les perturbateurs endocriniens. C'est un mystère, hein? C'est quoi les perturbateurs, elle va nous éclairer là-dessus. En attendant, il y a le livre « Toxique planète » de Chico Lella qui en parle un peu. Et puis, les perturbateurs sont invisibles, ils sont partout. Il y en a dans les plastiques et tout ça. Et je vais lui poser la question suivante, que cette question-là, c'est Dominique Bellepomme, qui est un médecin, qui a écrit quelques livres là, sur l'écologie, puis qui était à l'origine de la charte, l'appel de Paris pour la fin de la pollution chimique, pour promouvoir l'hygiène chimique, entre autres. Je vais lui demander aussi à Mme Plante, c'est quoi l'hygiène chimique avec. Alors, je vais lui poser la question. Est-ce que c'est vrai que les perturbateurs endocriniens qui réduisent la qualité du sperme pourraient éliminer l'humanité en 100 ans, sans qu'on s'en aperçoive, tu sais? Fait que, est-ce que c'est un mythe, ça, ou c'est vrai? Si vous avez la réponse avant que j'interviewe Mme Plante, tant mieux pour vous. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, « À nous le futur ». Je vous souhaite tellement une bonne santé, empreinte de bonheur. Et j'ai très hâte de vous revoir. Portez-vous bien, comme dirait mon père, sinon lâchez-vous. Ici Claude Saint-Jean pour « À nous le futur ».